dans la famille Mégalo, je demande le papa, un certain Tamerlan, chef de guerre turco-mongol, qui valait mieux pas trop chauffer, Stéphane, si j'ai bien compris.
Historiquement vôtre. Le récit.
Quand on pense aux mégalomanes, on pense assez vite aux grands conquérants comme Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon. Tous ceux qui se réveillent un bon matin avec la drôle d'envie d'aller conquérir la moitié de la planète. Dans cette grande famille des chefs de guerre assez sûrs d'eux-mêmes, il y a un nom qui fait encore frémir du Moyen-Orient à l'Asie centrale, Tamerlan. Ou plutôt Timur Lang ou Timur le Boiteux. Et si ce seul nom éveille des images de terreur et de conquête sanguinaire, c'est pour l'excellente raison qu'il a tout fait pour ça.
Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Tamerlan?
Ça commence dès la naissance. Hein, quand il naît en avril 1336, il y a près de 7 siècles, le petit Timur avait, en croire la légende, les poings fermés sur des caillots de sang. Avec un présage pareil, on n'était pas parti pour en faire un poète romantique, voyez les gens. Et pourtant, Tamerlan n'est pas une brute sanguinaire, enfin pas seulement. Même s'il a vécu une jeunesse rude et violente, c'est un jeune homme plutôt savant et cultivé, éduqué très jeune dans un double but. Combattre et répandre sa foi, celle des musulmans sunnites évidemment. Après quelques années à faire ses armes, Tamerlan prend le pouvoir en 1370 dans sa région natale, l'Ouzbékistan actuel. À 34 ans, son ambition est dévorante. Il rêve de marcher sur les traces de Gengis Khan en personne, le fondateur, vous savez, du plus vaste empire de tous les temps, l'Empire mongol. Et comme ça demande des moyens, Tamerlan va associer deux choses. La terreur pure d'un côté, le goût de la splendeur de l'autre, installé avec ses 18 épouses et ses 21 concubines à Samarcande, une capitale qui ne cessera jamais d'embellir. Rien que ce nom, Samarcande, ça fait rêver. C'est d'ailleurs pour l'une de ces 18 femmes, Bibi Khanoum. oui, je sais, ça,
c'est un
ça
peut vous
paraître... Non, elle s'appelait vraiment Bibi Khanoum, c'est ridicule. Que Tamerlan fait construire l'une des plus grandes et des plus belles mosquées d'Asie centrale à Samarcande, couverte de céramique splendide. Pour construire l'ensemble, qui mesure 170 mètres de long, il a fallu 500 ouvriers, 200 architectes, maçons et artisans, et 95 éléphants indiens.
Il voyait grand à l'époque.
Et Tamerlan, c'est un cauchemar pour les artisans, parce que quand ça ne lui va pas, c'est le genre de client qui fait tout refaire, à commencer par ce qui deviendra son propre tombeau. En 1403, Tamerlan fait construire à Samarcande le mausolée de Gour-Émir pour son petit-fils et successeur désigné, Muhammad Sultan, tué au combat. Mais lorsque le premier dôme fut achevé, Tamerlan trouve que c'est un petit peu petit. Alors, il fait tout casser pour en faire construire un autre, nettement plus grand, une splendeur qu'on peut toujours admirer aujourd'hui. Tamerlan lance pendant 30 ans une série d'expéditions meurtrières tous azimuts. Il forge un empire immense qui va de l'Inde à la Syrie, de l'Iran à l'Afghanistan et jusqu'aux confins de la Chine. C'est d'ailleurs au moment où il tourne son regard vers l'empire du milieu qu'il meurt de maladie en 1405 à 68 ans. Jusqu'à la fin, sa gigantesque envie de conquête sera restée inassouvie. Entre-temps, bon, le monde entier aura appris à connaître sa manière de faire, qui est finalement assez simple.
Ça consiste en quoi, d'ailleurs?
Vous voyez, Mathieu, vous massacrez tout ce qui bouge, vous réduisez en cendres tout ce qui bouge pas. Les seuls qui l'épargnent, ce sont les artistes, les lettrés, les savants. Tous ceux qui ont un quelconque talent et ils sont envoyés à Samarcande pour le servir, évidemment. Non seulement ça fait de la ville un des plus grands centres artistiques et intellectuels du monde, mais ça renforce la très haute idée que Tamerlan se fait de lui-même.
En même temps, quand on conquiert la moitié de l'Asie et du Moyen-Orient, on peut comprendre que ça donne un peu la grosse tête, Stéphane.
Ah, oui. Bon, Tamerlan était mégalo, assurément. S'il avait la grosse tête, il a surtout beaucoup découpé celle des autres, Mathieu. Je m'explique. Quand il s'agit de terrifier ses ennemis à grand renfort de cruauté, chacun a ses petites recettes, ses petites manies, si vous voulez.
Bien sûr.
Bon, Vlad Dracul, le prince de Valachie, qui a donné son nom à Dracula. Bon, il avait par exemple tendance à empaler ceux qu'il gonflait. Tamerlan, lui, sa petite manie, bah, c'est les pyramides de crâne.
Qu'est-ce que c'est les pyramides de crâne?
Bah, vous les empilez.
Mais quelle horreur.
Mais si vous les empilez pas en forme de pyramide, ça tient pas. Vous avez jamais essayé?
Oui, mais j'ai jamais essayé d'empiler des crânes, non, Stéphane? Ah oui. On n'a pas les mêmes hobbies. On n'a pas eu la même enfance, visiblement.
Après, moi, j'ai été éduqué à la méthode Tamerlan. Après avoir pris à l'aide, je plaisante évidemment, parce que des fois que.
On doit avoir des courriers. Oui. Stéphane Bern a-t-il tué des gens dans sa vie?
Jamais.
Non, jamais, vous le précisez, oui.
Bien sûr. Après avoir pris Alep en Syrie, Tamerlan a ainsi demandé à ses troupes de décapiter les 20 000 habitants avant d'empiler leurs têtes pour former des pyramides de plusieurs mètres de haut. À Ispahan, il a encore franchi un cran dans l'horreur en ordonnant à chacun de ses officiers de lui ramener un certain quota de crâne. Quand l'armée de Tamerlan a fini par quitter la région, il y avait plus de 70 000 têtes entassées devant les murs de la ville. Mais son record, c'est quand même devant Bagdad.
Ah,
les secrétaires
mieux.
De son armée ont scrupuleusement recensé 120 tours de 750 têtes, soit 90 000 victimes, un record à battre. À la fin de son règne, on estime que le triste bilan de ses conquêtes se situe entre 1 et 17 millions de morts, ce qui laisse quand même une certaine marge d'erreur. 17 millions, c'est à peu près 5% de la population mondiale à l'époque, mais les conséquences meurtrières de la soif de conquête de Tamerlan ne se sont peut-être pas arrêtées avec sa mort.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, mon cher Stéphane, vous avez laissé entendre que Tamerlan aurait continué de faire des dégâts après sa mort, et c'est une idée qui risque de m'empêcher de dormir cette nuit.
Bon, je vous rassure, Mathieu, ça remonte à quelques décennies tout de même.
Ah oui, mais ça fait peur quand même.
À sa mort, la dépouille de Tamerlan a été enterrée dans un sarcophage au cœur du Gour Émir, le mausolée splendide de Samarcande, sous une épaisse dalle de jade noir. Sur cette dalle était gravée une malédiction lourde de menaces. « Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera. »
Donc je suppose que là, tout le monde s'est dit qu'il était impératif de surtout pas ouvrir ce truc, Stéphane.
Bah, bien sûr que non, Mathieu. Les scientifiques sont des gens curieux qui résistent rarement à l'envie d'ouvrir des boîtes.
Ne pas
bon,
ouvrir.
Là, en l'occurrence, c'est un sarcophage. Le 19 juin 1941, une équipe de scientifiques russes exhume la dépouille de Tamerlan.
Malheur.
Le squelette est bien celui d'un boiteux, mais aussi d'un homme bien bâti, assez grand pour son époque, avec une carrure à déménager des pianos. Bon, l'époque, en même temps, c'était pas tellement...
C'était pas son
activité préférée.
Non, effectivement.
Je vous l'ai dit, les savants russes ont ouvert la tombe le 19 juin 1941. Vous savez ce qui s'est passé en Russie, trois jours plus tard, dans la nuit du 22 juin 1941 ?
Je le sais, évidemment, mais je le préfère garder pour moi. Je n'aime pas étaler ma culture comme vous, Stéphane.
Bah, c'est pas ça, moi je cherche à informer nos auditeurs quand même.
Bien sûr.
Cette nuit-là, je vous rafraîchis la mémoire, Adolf Hitler a déclenché l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque surprise de l'Union soviétique par les troupes de la Wehrmacht. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps, avec plus de 4 millions de soldats lancés contre l'Union soviétique.
Bah, si je comprends bien, il ne faut jamais ouvrir les tombeaux avec des malédictions gravées dessus.
Disons que depuis, certains se disent que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Si on croit aux malédictions, on peut dire que Tamerlan avait suffisamment le melon pour déclencher la plus grande bataille de l'histoire 600 ans après avoir cassé sa pipe. D'ailleurs, on a assez vite décidé de remettre Tamerlan dans sa tombe et de respecter scrupuleusement les rites musulmans.
Oui, c'était trop tard ça, Stéphane.
Oui et non, Mathieu, parce que le deuxième enterrement a eu lieu en novembre 1942, quelques jours avant la victoire russe de Stalingrad, l'un des grands tournants de la Seconde Guerre mondiale, comme quoi Tamerlan était tranquille.
Mais vous croyez vraiment à toutes les malédictions, Stéphane, vous, j'ai l'impression.
Oui, j'adore.
Vous adorez ça,
oui,
hein,
oui.
Ouais, c'est...
Europe 1, historiquement vôtre.